Olivier, dans la phrase de Laudato si, que Loïc nous a lue, il est question de conversion communautaire, donc c'est le sujet du jour. Hein.
C'est le sujet du jour, oui.
Alors
c'est un peu obscur, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais dans le grand domaine de l'écologie intégrale, eh bien en fait c'est la partie qui concerne le vivre ensemble. Voilà, comment on se convertit, y compris dans ce domaine-là. On en parle tout à l'heure.
On parle d'un terme peu familier aujourd'hui, la conversion communautaire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ?
Eh bien, très simplement, il s'agit d'appliquer la radicalité de l'appel à la conversion à l'écologie intégrale dans le domaine communautaire, c'est-à-dire dans le domaine du vivre ensemble. Lorsque l'on se met en mouvement dans le domaine de l'écologie, naturellement, on va vers des choses techniques extérieures à nous. Ça peut être trier ses déchets, trouver des vêtements éthiques, améliorer l'isolation de la maison. Et finalement, c'est autant de domaines de conversion qui sont légitimes, mais qui n'épuisent pas le sujet. L'écologie intégrale, c'est aussi donc comment on vit les uns avec les autres.
Je comprends pas bien, Olivier. On a sa famille, éventuellement ses cercles d'amis, qui apporteraient de nouveau cette conversion?
Alors là encore, j'en avais déjà parlé dans un apport précédent, je crois. Il y a un mot sur l'aspect nécessairement inconnu d'une conversion. C'est pas parce qu'on comprend pas qu'il y a rien à comprendre. Il va encore falloir de nouveau construire là où il n'y a rien. Imaginer ou plutôt retrouver, parce que si en Occident on n'a plus vraiment accès à cette notion, ailleurs et avant, c'est pas pour faire mon vieux réac, mais je suis trop jeune pour ça, mais il y a de nombreux modèles de société qui sont plus communautaires, à tel point que ce que nous vivons actuellement, on pourrait presque parler d'une parenthèse aberrante dans l'histoire humaine.
Vous allez un peu loin, Olivier, là, une parenthèse aberrante.
Ben en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une grande différence entre la vie de tribu, de village, de quartier qui a été la règle pendant longtemps et notre vie relationnelle actuelle. Je cite de nouveau Sœur Emmanuelle que j'avais citée l'an dernier. Elle parlait de son étonnement de voir la faible qualité de la relation humaine en France, en comparaison avec ce qu'elle vivait chez les plus pauvres au Caire. Elle disait « En France, je suis frappée que les gens communiquent de moins en moins. Chacun vit pour soi. » Se faire une sorte de cercle où il y a quelques amis et puis c'est tout. Alors ça a des explications, tout ça c'est dû à des courants idéologiques, l'individualisme associé au progrès technique qui nous rend chacun indépendant parce qu'on a une machine à laver, une voiture individuelle, etc. On peut aussi penser à l'effet des réseaux informatiques, les réseaux sociaux. Alors on a des centaines d'amis mais en fait ça enlève un peu la vraie amitié. Donc tout ça c'est pas neutre. Et c'est résumé un petit peu en Laudato si 662. L'homme et la femme du monde postmoderne courent le risque permanent de devenir profondément individualistes. Et beaucoup de problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle, etc. Voilà. Et puis ça me fait penser aussi à un article qui est paru dans Libération le 26 février 2018. Il parle d'un établissement pour personnes âgées où il traite des malades d'Alzheimer. Et l'équipe médicale a donné des poupées de bébés. Alors très réaliste, hein, pour apaiser les malades d'Alzheimer les plus malades justement. Parce que les moins malades se rendaient compte de la supercherie et ils jouaient pas le jeu. Et d'après l'article, les effets sont vraiment spectaculaires. Donc on arrive à soigner, entre guillemets, ces personnes à un état de maladie très avancé, que la chimie pour laquelle la chimie peut plus grand chose, simplement en leur donnant un pseudo, mais c'est pas grave parce que pour elle il est réel, un pseudo lien humain, du lien humain. Mais enfin, quel signe plus éclatant de la maladie sociale on peut chercher encore après ça?
Ça fait froid dans le dos, votre exemple, Olivier.
Hein. Mais oui, absolument.
Voir la déconnexion à laquelle on est arrivé. Mais bon, après, toutes les souffrances ne se résument pas non plus à la solitude.
Ben effectivement. Et je ne veux pas centrer sur les personnes qui souffrent, entre guillemets, d'une pathologie de solitude, mais sur nous tous. En gros, si on a cru pouvoir, nous tous, dans la tiédeur de la fin du XXe siècle, se payer le triste luxe de l'individualisme, ben c'est plus le cas. La vie devient de plus en plus difficile et incertaine, et on ne peut plus faire l'économie d'une joyeuse conversion communautaire.
Vous pouvez développer, Olivier ?
Alors, je vais faire un tableau un peu sombre, excusez-moi. Je sais très bien qu'il y a des tas de merveilleuses choses qui jalonnent notre vie, nos vies. Simplement, je vais essayer de montrer une tendance du monde actuel. Et alors je vais me risquer à une anaphore, un peu comme avait fait François Hollande, moi président de la République.
Allez-y Olivier, on vous écoute.
Alors, mais sauf que moi j'ai mes notes, hein. Lui il l'avait fait comme ça. Pour beaucoup, il est difficile de trouver un travail, et à plus forte raison, un travail qui soit source de rémunération et à la fois porteur de sens et d'épanouissement personnel. Pour beaucoup, il est difficile de désapprendre les comportements déviants que notre société a insidieusement encouragés, par exemple la consommation débridée, l'ego surdimensionné, la virtualisation des rapports humains, la pornographie, la vie hors sol, la peur de l'engagement. Pour beaucoup, il est difficile de répondre à l'injonction de perfection et de devoir toujours refouler sa vulnérabilité. Pour beaucoup, il est difficile de suivre le rythme avec les enfants, le travail. Pour beaucoup, il est difficile de garder la santé dans un environnement qui est devenu hostile, avec des pesticides, des perturbateurs endocriniens, le stress qui produit la fatigue, la dépression, des problèmes digestifs, articulaires, etc., les maladies auto-immunes. Pour beaucoup, il est difficile de vivre avec la menace d'un effondrement mondial, trouver des voies d'espérance malgré tout. Pour beaucoup, il est difficile d'avoir une fin de vie heureuse. La place accordée à toutes les personnes qui sont non productives, eh ben, elle est de plus en plus dévalorisée. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des courants qui marquent notre époque et qui ne sont pas neutres.
Bon, j'entends bien, Olivier, mais vous mettez ici en lumière les tendances négatives. Est-ce que vous ne passeriez pas sous silence des évolutions positives pour donner du poids à votre thèse ?
Je comprends bien ce que vous voulez me dire, mais je crois même que cette tendance négative, au contraire, elle pourrait bien s'accentuer. C'est-à-dire que le monde de demain ne va pas être le prolongement du monde d'aujourd'hui. C'est un peu l'idée d'effondrement dont Arnaud nous avait parlé déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait l'expérience d'un monde stable avec des produits dans les supermarchés, on va travailler tous les lundis matins, on a du courant pour brancher nos téléphones, mais ça ne va pas forcément rester en l'état. Voilà, les scientifiques nous parlent d'un monde instable. Pour l'instant, on voit ça comme des réalités fuyantes qui échappent à notre raison. Mais voilà, c'est peut-être des choses qui vont arriver malgré tout. Et donc c'est bon de se préparer, même si c'est inconfortable, c'est bon de se préparer à ces changements qui pourraient arriver. Voilà, que fait-on de cette réalité nouvelle qui est inédite dans l'histoire humaine ? Alors il y a deux façons de faire. Aux États-Unis, les survivalistes, c'est un courant social, sociologique, où les gens se préparent en renforçant plus encore leur individualisme, c'est-à-dire chacun fait son bunker, fait ses réserves. Et ça, c'est une pente glissante qu'il ne faut surtout pas prendre, mais vers laquelle on risque d'aller si, dès aujourd'hui, on ne choisit pas le chemin de la croissance au sens collectif et fraternel. Voilà, et puis l'inconfort est grand, mais n'oublions pas que la conversion à l'écologie intégrale, c'est d'abord un chemin de guérison. L'occasion, comme disait Lanza del Vasto, dont on va entendre parler dans les émissions à venir, d'un certain retour à l'évidence.
Merci Olivier pour ce constat. Mais alors, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors, ben moi, pas grand-chose, si ce n'est de revenir à cette phrase du pape qu'on a entendue en introduction, Laudato Si 219, où il cite Romano Guardini. « Les exigences de cette épreuve seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces, etc. » Donc, ce n'est pas une attitude individuelle, mais ce n'est pas non plus une simple coopération des hommes tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça l'idée de conversion qu'on retrouve. Voilà.
Une autre attitude, tout ça c'est un petit peu flou, Olivier. Vous pouvez préciser ?
Oui, c'est flou. C'est flou, j'en reviens à ce que je disais au début. Il ne s'agit pas d'apporter les solutions, mais de considérer ce domaine du vivre ensemble comme un champ d'expérimentation plutôt que comme quelque chose qui va de soi. Pour le reste, ben, voilà, chacun peut discerner à la lumière de l'évangile, notamment. On peut aussi penser à une phrase de Jean Vanier ou à un extrait. Il parle de l'illusion d'un monde meilleur basé sur l'économie et la technique s'évanouit. On peut voir dans les cassures de notre civilisation les semences d'un monde nouveau, solidement établi sur les valeurs évangéliques, la non-violence et la communauté fondée sur l'amour de Jésus. Une renaissance se prépare. Bientôt vont naître une multitude de communautés fondées sur l'adoration et la présence aux pauvres, reliées entre elles et aux grandes communautés renouvelées qui cheminent depuis des années et parfois des siècles. Une église nouvelle est en train de naître.
Oui, mais Olivier, je ressens comme un frein en moi.
Ben, c'est normal, parce que, en fait, cette conversion, elle associe deux difficultés. Je m'explique. Si je me sens égoïste ou colérique, je vais travailler sur moi pour ne plus l'être. Je vais aller voir mon psy, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est quelque chose qui touche à ma personne, mais je m'en débrouille tout seul quelque part. À l'inverse, si j'ai plus envie de jeter mes épluchures à la poubelle, avec mes voisins, je vais faire un compost collectif. Donc là, c'est collectif, mais c'est technique extérieure à moi, donc il n'y a pas cette difficulté. Et la conversion communautaire, c'est à la fois quelque chose d'intime et qu'il faut mener collectivement. Donc c'est difficile et dérangeant, voilà. Mais ça n'empêche pas que ben, c'est un chemin merveilleux.
Alors pourquoi, au fond, parler de tout cela, le relationnel, ça se vit, Olivier, plutôt que ça se disserte?
Oui, il y a des choses à vivre, bien sûr. D'ailleurs, il y en a énormément qui vivent déjà des choses. La Maison Claire et François, dont vous faites partie, en est un bel exemple. Mais s'il y a à cheminer vers une autre attitude, quand le pape François parle de ces mots « autre attitude », ben, c'est pas quelque chose de naturel. Donc ça veut dire que c'est bon de s'accompagner, de relire les expériences, de confronter aux autres, de créer une culture commune, voilà, de lutter contre cette espèce aussi de tendance normalisatrice que tout collectif a en son sein. On a tendance à s'auto-censurer souvent.
Et Olivier, ça reste encore, je suis désolée, hein, mais un petit peu flou pour moi. Auriez-vous quelques éléments concrets à nous proposer?
Oui, donc on peut faire des habitats partagés, participatifs ou collectifs, on appelle ça comme on veut. Il y a donc Claire et François, la Bénisson Dieu, la ferme de Lachaux, ça c'est des lieux plutôt chrétiens, donc pour dire qu'il y en a. Des non-chrétiens, il y en a des centaines en France déjà. Il y a des structures aussi qui accompagnent ces projets, HEN à Nantes ou le projet Oasis des Colibris de Pierre Rabhi. D'ailleurs, chers auditeurs, s'il y a des projets qui vous inspirent et qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures, on mettra tous les liens en podcast de l'émission. Mais surtout, on peut commencer tout doucement. Il ne faut pas s'effrayer ni se lancer des trop grands défis. Finalement, tout est prétexte à la croissance du lien avec ses frères. On peut partager sa voiture, on peut partager un repas de voisinage, on peut offrir des sourires aux gens qu'on croise dans la rue. Voilà, chacun définit quel chemin il prend pour aller vers cette autre attitude dont parle le pape.
Et la famille, Olivier, dans tout ça?
Et la famille? Eh bien, les formes de vie communautaire, bien sûr, ne remplacent pas la famille. C'est à la fois une belle mission et une source d'enrichissement pour la famille, cette conversion communautaire. Donc les deux vont ensemble. D'ailleurs, à la ferme de Lachaux et à la Bénisson Dieu, ce sont principalement des familles qui forment le socle de ces lieux de vie communautaire. Donc finalement, il s'agit de trouver des formes de vie moins cloisonnées, allant dans le sens de cette phrase encore tirée de Laudato Si en 231, qui dit « L'amour social est la clé d'un développement authentique. Pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut, écoutez bien parce que c'est pas rien, il faut revaloriser l'amour dans la vie sociale, au niveau politique, économique et culturel, en faisant la norme constante et suprême de l'action. » Voilà, c'est-à-dire remettre au cœur du vivre ensemble, au cœur de la société, eh ben, cette notion d'amour fraternel.
Eh bien voilà qui sonne comme une phrase de conclusion. Olivier, vous avez quelques conseils de lecture à nous proposer pour finir?
Alors, comment ne pas conseiller quelques œuvres des deux arches, donc l'arche de Lanza del Vasto et l'arche de Jean Vanier, qui sont deux beaux exemples contemporains de vie communautaire. Donc celle de Jean Vanier, on peut parler du livre « La communauté, lieu du pardon et de la fête ». Et puis pour celle de Lanza del Vasto, par exemple, l'arche avait pour voilure une vigne. Et puis on peut aussi tout simplement prendre plutôt des livres vivants, c'est-à-dire aller directement dans ces communautés. Voilà.
Merci Olivier.
Merci à vous.